Gloire à Dieu. Nous sommes ici ensemble pour partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Vous êtes des excellents frères et sœurs. Et j'ai toujours un plaisir de venir dans votre église et de partager la parole de Dieu avec vous. Et je crois que c'est une grâce que nous serons ensemble et que nous puissions communiquer la parole, communiquer au travers, au moyen de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, nous allons continuer de la conversion à la transformation et c'est un processus. Et ce qui est important, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, quand Jésus avait lavé les pieds de ses disciples et qu'il avait fait, disons, comme la dernière sainte scène avec eux, avant que Judas ne sorte et ne trahisse le maître. Dans ce passage-là, Jésus dit au verset 13, Jean 13, 13, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il continue, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Et le verset sur lequel je voudrais m'appuyer ce matin, avant de continuer, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Si vous savez cela, je crois que les chrétiens, à un moment donné, ont un savoir qu'une connaissance expérimentale. Nous savons tellement de choses et nous pratiquons peu. Et ce qui fait que le savoir monte plus et le savoir nous amène à des discussions inutiles, à des divisions et à des séparations. Mais il y a des choses qui viennent par la science expérimentale. Et dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, on ne va pas le lire, il est écrit que Dieu a créé toutes choses par sa sagesse. Et il a utilisé la sagesse, la connaissance et donc l'intelligence. Il est dit aussi, dans ce même passage, dans le livre des Proverbes, qu'une maison, ça veut dire ma vie, une maison peut être d'abord ma vie individuelle, ça peut être mon foyer, ça peut être l'église. Une maison aussi se bâtit par au moins de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. La sagesse te permet le comment, le savoir. L'intelligence te donne la compréhension de la chose. Mais comprendre une chose ne vous sera pas utile si vous n'avez pas donc la sagesse pour que cette chose-là devienne une science expérimentale, quelque chose que vous pouvez toucher vous-même. Alors, Jésus dit ici, c'est bon d'avoir un savoir, mais ce qui va permettre que ce savoir-là affecte votre vie, c'est lorsque vous commencez à mettre cela en pratique. Et ce qui est mis en pratique reste longtemps plus que ce qui est simplement donc mis dans l'intelligence et gardé. Et c'est pourquoi nous avons tous fait l'école primaire, nous avons tous appris les fables de la fontaine. Je ne sais pas s'il y a un seul qui peut se lever, réciter les fables de la fontaine maintenant. Vous avez oublié beaucoup de ces fables. Ne me dites pas non, je vais vous mettre à l'épreuve tout de suite. Vous venez ici et vous allez me réciter les fables. Il ne faut pas faire de la contradiction inutile. Peut-être qu'il y a une des femmes pour laquelle on vous a donné des fessées, ça vous n'a pas oublié. Peut-être ça vous rappelez de ça. Sinon, en réalité, la plupart des fables, on les a tous oubliées. Les récitations de La Fontaine. Parce que ce n'est pas des choses qu'on pouvait pratiquer. Mais les choses que nous pouvons pratiquer, sur lesquelles, par exemple, un enfant qui avait l'habitude à quand il était à quatre pattes, d'aller vers le feu, sa maman disait, ne va pas vers le feu, l'enfant ne comprend pas. Mais dès que la maman a pris les doigts de l'enfant, a mené vers le feu a brûlé, l'enfant a retenu ça une fois pour toutes. Ce n'est pas un savoir. Il a vécu quelque chose et il a retiré sa main. Et depuis ce temps, quand il voit le feu, il fait attention au feu. Il y a des choses, frères et sœurs, que nous avons apprises dans la Bible, que nous connaissons de façon mentale, psychique, mais qui n'affectent pas notre vie. Et c'est pourquoi Jésus dit que nous serons heureux lorsque ce que nous savons, nous le mettons en pratique. Et pour continuer donc ce que nous avons commencé hier nous avons abordé la solution divine pour édifier mon esprit et restaurer mon âme, et nous allons revenir sur quelques éléments qui vont me permettre, qui vont m'aider, qui vont nous aider à aller de l'avant. Vous savez, prêcher des vérités sans les pratiquer n'apporte rien. Si l'Église de Christ pratiquait les enseignements, l'Église de Christ aurait été changée il y a longtemps. Il y a beaucoup, chaque année, les gens s'attendent à ce que les prédicateurs amènent des nouveaux messages. Nous n'avons pas besoin de nouveaux messages, nous avons besoin de mettre en pratique ce que les prédicateurs nous ont déjà enseigné. Nous n'avons pas besoin d'informations. Nous avons besoin de révélations et de révélations qui deviennent des pratiques. Et ces pratiques-là changent de façon littérale notre vie, notre manière de faire. Quand dans les nations on parle de coutumes, on parle de nos coutumes, de nos us, on parle de nos traditions, on parle de notre culture. C'est venu de quoi? Toutes ces choses ont commencé simplement par quelqu'un qui a expérimenté quelque chose et qui était un ancêtre, qui a commencé à pratiquer. C'est devenu une culture plus tard de toute une nation. Parce qu'il l'a pratiqué, et en pratiquant ces choses-là, ce qu'on appelle, on dit la culture française, on dit la culture africaine, telle culture, c'est venu simplement des gens qui ont commencé dans la théorie et qui ont mis en pratique, c'est devenu des habitudes. Alors que lorsque quelque chose devient une habitude, ça devient compliqué. Alors nous avons des mauvaises habitudes et nous avons des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est ce que nous allons voir pour que mon âme soit transformée. Ce sont les mauvaises habitudes qui ont amené cet enfant-là à grandir et à devenir un bandit. Ces mauvaises habitudes qu'il a eues à pratiquer, c'est devenu un réel élément en lui. C'est devenu une forteresse dans son âme. Et vous ne pouvez plus rien. Vous le mettez en prison, il ne change pas. Vous l'amenez au tribunal, on le condamne 5 ans, il ne change pas. Parce que ces mauvaises habitudes qu'il a cultivées sont devenues des coutumes dans sa vie. C'est devenu des pratiques quotidiennes. Et sur le plan positif, puisqu'il n'y a pas de lumière sans le positif et le négatif, parce que sans une ampoule qui a moins et moins, il n'y aura pas de lumière. Il faut le plus et le moins. Si on voit le moins, on doit voir le plus. Et si les chrétiens aussi, de même que les gens ont des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes, si nous avons développé de bonnes habitudes, ces habitudes-là seraient devenues aujourd'hui notre vie quotidienne. Ce serait devenu simplement notre coutume, notre manière de vivre, les bonnes habitudes. Donc, ce n'est pas la prédication en elle-même qui fait, c'est ce qui est mis en pratique là, c'est ce qui importe. Alors, la première chose, nous avons dit que pour que mon âme soit transformée, premier élément que je dois prendre en considération, je dois d'abord mirer, je me mirer chaque jour dans le miroir de Dieu, le miroir de la parole de Dieu. Je dois me mirer chaque jour. Chaque jour, je dois me mirer. La parole de Dieu doit être un miroir pour moi. Un miroir qui reflète mon visage spirituel. Un miroir qui me dit qui je suis, ce que j'ai et ce que je peux faire. C'est ce miroir seul qui est habilité à me dire cela. Ce n'est pas moi qui m'assois pour dire je vais faire ceci, ça ne compte pas. Ce n'est pas moi qui m'assois pour dire je peux faire ceci, ça ne compte pas. Non, c'est ce que Dieu dit, que le miroir dit, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je peux faire, c'est ce que Jésus a pratiqué simplement. Pendant ces 30 années, il nous a bien dit, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Je ne dis rien que ce que le Père me dit de dire. Il a pris cette bonne habitude de se refléter dans le miroir la parole du Père régulièrement. Et en mettant en pratique cela, Jésus est devenu un praticien de la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue une réalité dans sa vie. Donc c'est pourquoi nous voyons ici, bien-aimés frères et sœurs, et Jacques nous a déjà dit dans Jacques 1, qu'on ne va pas lire, à verset 29 à 35, il nous a parlé du miroir pour que nous soyons heureux dans nos activités. Dieu ne veut pas seulement que nous fassions des activités. Dieu veut que chaque activité que nous fassions et nous faisons, nous soyons heureux dans cette activité-là. Nous faisons des programmes dans les églises, mais c'est sans joie. Nous avons des programmes, mais il n'y a pas une joie réelle qui sort de là. Dieu dit que si nous mirons nos visages spirituels dans le miroir de la loi de la liberté, la loi parfaite, ce miroir-là a une puissance. Tout miroir, même le miroir naturel, a une puissance. Car le miroir naturel m'ordonne de faire telle chose, je le fais. Le miroir naturel me dit, madame, peignez-vous, je me peigne. Le miroir naturel me dit, monsieur, faites ceci, je le fais. Alors, si le miroir naturel que nous avons dans nos mains a une puissance pour transformer, pour changer mon visage régulièrement, pour que mon visage soit parfait, la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Et quand je me mire dans ce miroir régulièrement, je vois mon image. Je vois qui je suis. Je vois mon visage. Et je vois aussi ce que je peux faire, ce que j'ai, et je commence à pratiquer ce que je vois dans le miroir. Et c'est en pratiquant que ma vie commence à changer. Regardons maintenant dans Éphésiens, on va voir le miroir dans Éphésiens. Donc, le miroir d'Éphésiens, qu'est-ce qu'Éphésiens va nous dire? Éphésiens 4, nous allons voir ce passage-là. Éphésiens chapitre 4 et au verset 20. Le verset 20 nous dit comment Paul a appris à être transformé et il nous donne cette méthode pratique d'être transformé. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc Paul commence ici la transformation par ce qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement de quoi? Il dit, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Premier fait sur lequel, premier élément que le miroir me montre, Romains 6:6, c'est que mon vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix du calvaire. La croix du calvaire a deux faces. Et très souvent, nous avons été habitués à une seule face de la croix. Nous avons été habitués à cette face de la croix où nous venons devant la croix, où Jésus est sur la croix, et nous venons devant lui, et nous disons, Seigneur, je suis pécheur, tu es mort pour moi, tu as pris mes péchés, et je reçois le pardon et la réconciliation, et je reçois la vie. Ça, c'est le premier aspect où l'Église a été habituée. Mais la croix est plus que cela. La croix dit, ce n'est pas simplement une affaire extérieure, ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui vient, un pécheur qui vient à Jésus et qui reçoit Jésus. Dieu a allé plus que ça. Derrière la croix, l'autre côté de la croix, mon vieil homme a été crucifié en même temps que Jésus. La croix a deux faces. Le premier élément, je m'avance, je suis pécheur, je ne connais pas Jésus, je viens à lui et je vois cet homme qui est suspendu entre le ciel et la terre, cet homme qui crie, il dit, Père, pardonne-leur, cet homme qui dit qu'il a pris mes péchés, je verse des larmes abondantes, je suis brisé par l'amour que Dieu a pour moi et je reçois ce Jésus-là. Et Dieu me dit, mon fils, si tu restes simplement de ce côté-là, tu ne pourras pas progresser. Car non seulement je t'ai pardonné, mais je suis allé plus loin que ça. Ton vieil homme, ta nature adamique qui te fait produire le péché, cette usine de péché a été crucifiée de l'autre côté de la croix. Le dos de la croix ton vieil homme a été crucifié là-bas pour que cette usine ne continue plus à produire les mêmes péchés. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. C'est pourquoi Romains 6 dit, mais notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit impuissant et qu'il ne produise plus le péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ce n'est pas une doctrine, c'est un fait biblique. Je vous ai dit, si c'est une promesse, si c'est une promesse, je vais prier. Non, on ne prie pas, on accepte. C'est la révélation qui me dit que mon vieil homme qui produit le péché, qui produit le mensonge, mon vieil homme était en quelque sorte l'arbre du péché, parce qu'il est identifié à la nature satanique. Les péchés, ce sont les fruits de l'arbre du péché. Comme le fruit de l'esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit à travers mon esprit. Alors c'est pourquoi, étant donné que ma vie et celle de Satan étaient identifiées, c'était normal que je produise ce que Satan a mis en moi. C'est pourquoi je produis le mensonge, car Satan est le père du mensonge. Et je suis le fils du mensonge et je produis. Ma vie étant une branche de l'arbre satanique, mais je produis le fruit de Satan. C'est pourquoi tout homme qui est né sur la terre là ne peut pas faire autrement. Je suis participant de la nature satanique dès ma naissance. C'est pourquoi les enfants dans les bras de leur maman se fâchent. C'est pourquoi on n'a jamais appris à un enfant à voler les sous de sa mère. On n'a jamais appris à un enfant de voler les poires du voisin. Mais pourquoi ils ont volé? Parce que cette nature satanique est dans chaque homme qui est né. Et c'est la croix qui règle ce problème de la nature adamique qu'on appelle le vieil homme. Alors, mon vieil homme a été crucifié. Si je ne sais pas cela, je vais passer mon temps. Vous avez déjà vu le mot crucifié, je vais dire dans la forme active, je me crucifie. Vous pouvez vous crucifier? Je vous pose la question. Répondez-la. Vous pouvez vous baptiser vous-même? Est-ce qu'un mort s'est déjà enterré? Il y a des choses que vous devez... Il y a des vérités que les gens ne savent pas. Quand on dit crucifier votre vieil homme, est-ce que c'est écrit comme cela? Votre vieil homme a été crucifié par quelqu'un, pas par Satan. C'est pourquoi même quand on vous baptise là, vous êtes déjà venu là et puis vous avez dit je me baptise maintenant. Vous vous arrêtez dans la piscine et dites je me baptise au nom du Père, du Fils et vous plongez. Ça, ce n'est pas un baptême. Pas le baptême est un enterrement. Le mort ne s'est jamais enterré. C'est parce que vous avez été crucifié qu'on vous a descendu de la croix quand on a descendu Jésus, qu'on vous a enterré avec Jésus. Quand Christ est ressuscité d'entre les morts, vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. C'est ça la victoire. Mais c'est de ça que Paul parle maintenant. Quand il a dit aux Romains, il a donné ce principe-là. Mais avec les Éphésiens, il va plus loin. Mais mon vieil homme a été crucifié afin que je ne sois plus esclave du péché. Car le corps de mort, il a été livré, il est devenu impuissant. Mais Paul dit ici aux Éphésiens, mais bien que le vieil homme ait été crucifié, il faut apprendre à vous dépouiller de ce vieil homme-là. Cela veut dire quoi? On ne parle pas des éléments physiques, non frère. On parle du spirituel. La nature adamique, ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas mes pieds ni mes bras. On parle de l'élément spirituel qui était lié à Satan. Mais comme j'ai grandi dans cette nature adamique-là, Paul dit qu'il y a un processus qu'on appelle le dépouillement. Parce que ce processus-là a tellement touché mon âme que bien que j'ai été crucifié, je continue avec mon intelligence non renouvelée à mener l'ancienne vie alors que j'ai une vie nouvelle en moi. Et c'est ce qui fait le choc entre les deux natures. Le choc entre le vieil homme qui a été crucifié, dont je ne suis pas au courant, parce que le renouvellement de l'intérieur n'a pas été fait, alors en ce moment-là, j'ai des problèmes. Je commence à voir en moi une contradiction. C'est ce que Paul dit. Mon homme intérieur, mon esprit aime la parole de Dieu. Mon esprit veut obéir à Dieu. Mais je vois dans mes membres, quels membres? On ne parle pas des pieds, les pieds à morale. On parle de mes membres, on parle des éléments de l'âme. Je vois dans mon âme, je vois, mon âme me dit de faire autre chose.
Il y a une lutte. Parce que l'âme n'a pas été restaurée. L'intelligent n'est pas renouvelé. L'intelligent ne naît pas de nouveau. C'est mon esprit qui naît de nouveau. Et le combat commence entre les chrétiens. Et à la fin, les gens aboutissent à la démonologie. On dit que j'ai des démons. Si il n'y a pas de démons, tu as raison de dire aïe aïe aïe. Mais oui, parce que les gens, à la fin, c'est on dit qu'on a deux natures. Aucun homme n'est schizophrène. Un chrétien schizophrène. Mais Christ a échoué. Le vieil homme a été crucifié. Si vous êtes schizophrène, si vous avez les deux natures, si vous avez le vieil homme qui s'assoit et qui vit avec le nouvel homme là, vous êtes un monstre. Dans quel passage biblique on vous a dit ça? N'allez pas prendre les livres, je sais, n'allez pas me prendre les livres des gens pour essayer de me contredire. On va ouvrir la Bible là. Il ne faut pas jouer avec moi. Hein. J'ai lu tout au livre, tout ce que vous voulez dire là. Toute la série de Watchman Nee, je les ai tous lus. Depuis que j'étais nouveau, ça ne m'a rien donné. J'ai lu tous ces livres-là, tout ce que vous voulez prendre pour me contredire là. Je les ai déjà lus. Je suis un vieux singe. Donc, ok. Quand je vous parle, apprenez à m'écouter. Je suis un vieux singe. Vous savez, demandez-lui. J'ai plus de 3000 livres dans ma bibliothèque. 3000 livres. En français, en anglais, dans tout, même en allemand, je ne comprends pas. J'ai acheté posé. Non, quand je vois un livre seulement, on parle, j'achète, je pose. Il connaît ma bibliothèque. Il y a plus de 3000 livres de partout le monde, de l'Asie. Je les ai lus un à un. Je me suis assis, les lire, les regarder, les livres doctrinaux, les livres de l'histoire de l'Église pentecôtiste, histoire de l'Église évangélique, histoire de l'Église adventiste. J'ai tout lu, toutes les histoires. Mais ça ne m'a pas changé. Dieu m'a dit, reviens à la Bible. Reviens au miroir. Reviens au miroir. Si moi, j'ai dit que ton vieil homme a été crucifié, j'ai dit, et je le répète, il a été crucifié. Afin que tu ne sois plus esclave du péché. Si tu es esclave du péché, c'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas accepté le fait de ta crucifixion. Maintenant, si j'accepte cela, je rencontre des problèmes pratiques. Mon intelligence n'étant pas renouvelée, je commence à tituber. Alors, je me dis, donc je ne suis pas sauvé, je suis sauvé. Mais Paul me dit ici, tu n'es pas passé par le dépouillement. C'est-à-dire quoi? Tu ne t'es pas dépouillé chaque jour, on va le voir dans la pratique tout à l'heure là. Tu n'as pas pratiqué le dépouillement, et ce dépouillement ne peut se faire que par le renouvellement de ton intelligence, deuxième élément, et cela ne peut se faire, continuer, que si tu te réveilles de l'homme nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Regardons maintenant dans la pratique, ça veut dire le verset qui suit, tout juste la pratique. Et quand j'étais assis un jour, il me dit, mais regarde, le verset 25 dit, c'est pourquoi. Et quand on utilise cette expression, c'est pourquoi, cela veut dire que ce qui précède, on te dit, ce qui précède a une importance. Si tu as compris ce qui précède, le dépouillement, le renouvellement et le revêtement, c'est pourquoi, on te dit maintenant, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Le mensonge fait partie de quel homme? L'homme nouveau, l'homme et le vieil homme. Alors, si on dit de se dépouiller, vous comprenez qu'en pratique, ce que ça veut dire maintenant, c'est renoncer au mensonge. C'est ça le dépouillement. C'est un renoncement. Tu dois renoncer. Tu n'es pas un menteur. Tu ne fais pas partie de la famille de Satan. Parce que Satan est menteur et père du mensonge. Par la nouvelle naissance, tu as quitté la famille de Satan. Mais ton intelligence n'accepte pas ça. Et pour des compromis, par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude d'aller au service en retard, il est né de nouveau. Et quand il va au service, chaque fois, quand le patron se dit, mais monsieur, vous êtes venu en retard, oui, c'est ma belle-mère qui était malade. Bon, une semaine plus tard, mais monsieur, vous êtes venu en retard. Oui, je viens d'amener mon enfant au CHU et, parce que l'enfant était gravement malade. Mais il est habitué aux mensonges. Il devient un jour chrétien. Vous voyez, il est né de nouveau authentiquement. Mais il vient au service le lendemain, il trouve le patron à la porte encore. Le patron dit, alors, qui est mort chez toi aujourd'hui? Il dit, non, mais j'ai mal démarré ma voiture, et comme il y avait la neige là, ma voiture s'est bloquée. Mais quand il rentre au bureau, tout de suite son cœur commence à faire quoi? Tu as menti. Et l'homme qui n'était pas converti, le mensonge ne l'importunait pas parce qu'il était ami de Satan. Maintenant qu'il est de la famille de Dieu, le mensonge commence à le traumatiser. Vous entendez? C'est pourquoi vous êtes traumatisé là. Le mensonge commence à le traumatiser. Parce qu'il était d'abord, il avait la nature satanique. Mentir, c'est normal. Quand les gens vous disent, un chrétien peut mentir dans les affaires, ça veut dire qu'il te dit, un chrétien peut garder sa nature satanique, être enfant de Dieu. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. J'étais homme d'affaires 14 ans, mon ami. J'ai brassé des milliards, pas des millions, des milliards dans les affaires pendant 14 ans. Et je sais quelles sont les tentations qu'il y a dans les affaires. J'ai marché droitement. Le mensonge, c'est une nature. Jésus l'a dit, Satan est le père du mensonge. C'est-à-dire, il est la source du mensonge. Père veut dire quoi? Source. Et si moi je mens, je m'affilie à Satan. C'est pourquoi il dit, le dépouillement ici commence par d'abord à renoncer au mensonge. Si tu renonces au mensonge, tu as décidé de renoncer à Satan. Ce n'est pas Dieu qui le fera. Dieu t'a déjà crucifié, fait crucifier. Dieu t'a déjà donné un homme nouveau. C'est toi qui dois faire l'exercice spirituel du dépouillement, du renouvellement et du revêtement. Et en le faisant comment? Tu renonces au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. La vérité, c'est la nature de qui? Qui est la vérité? Jésus, on te parle de deux personnes ici. Tu renonces, tu donnes dos à la nature satanique et tu te mets du côté de Jésus maintenant qui est la vérité. On ne te parle pas de philosophie ici. On ne te parle pas de psychologie. On te parle de deux personnes. On te parle de deux personnes. Tu décides de renoncer à Satan, le père du mensonge. Et tu vas maintenant de marcher avec Jésus, la vérité. Jésus devient ton compagnon de marche. Dépouillement, revêtement. Revêtement, c'est quoi? Dis la vérité. Au fur et à mesure que tu dis la vérité prend l'emprise sur le mensonge. Et dans ton mental, dans ton psychique, le mensonge devient vilain. Le mensonge devient horrible. Tu ne l'aimes plus. Tu es en train de te dépouiller de ce personnage horrible. C'est ça le dépouillement et le revêtement. Mais cela se passe par l'intelligence renouvelée, croire en ce que Dieu a dit. Continuons, tu vas voir encore, le processus est devant toi. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit ici que, car nous sommes membres, verset 26, si vous vous mettez en colère, écoutez, tout le processus est devant vous. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On voit ici encore, dépouillement, revêtement par le renouvellement. On le voit ici. Si vous avez l'habitude de vous mettre en colère et vous faites deux jours, trois jours sans parler à quelqu'un, vous mettez en colère, la Bible dit ici, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ça veut dire que la colère elle-même n'est pas un péché. Elle devient péché quand? Lorsque le soleil se couche sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela veut dire que la colère est un sentiment. C'est dans votre âme. Vous l'avez exprimé par quelqu'un qui vous a vexé. Et c'est sorti naturellement. Parce qu'on vous a vexé, c'est sorti. C'est pas un péché parce que vous avez mis en colère. Mais maintenant que quelqu'un vous a fait du mal, la colère est sortie, Dieu vous dit maintenant, ne péchez pas. Ne laissez pas que cette colère devienne un péché. C'est-à-dire que faut plus vous asseoir, prendre cette colère qui est venue de façon vive. Maintenant, le travailler dans le froid, vous asseoir, le mettre dans votre cœur, ça va devenir de la haine. Si ça devient de la haine, est un péché. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre. Vous voyez encore, dépouillement, revêtement. Revêtement, c'est quoi? Ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Pardonnez la personne. Le pardon, c'est le revêtement. Et comme cela, la colère n'a plus d'emprise sur vous. La colère ne vous dérange plus, frères et sœurs. Et quand vous faites ça, L'emprise de la colère sur votre vie commence à diminuer. Elle commence à diminuer. Le cycle pour garder la colère devient de plus en plus un cycle très très court. Alors qu'avant, quand vous mettez en colère, vous faites 3 ou 4 jours, ou bien 1 mois sans parler à la personne. Vous négligez la personne. Mais maintenant, vous ne pouvez plus. Dès que la colère est là, le cycle devient court. Et le cycle du jour, c'est ça, que le soleil ne se couche pas, ça veut dire le cycle du jour est le seul instant où la colère doit être gardée et vous ne devez pas passer l'autre jour avec une colère en vous. Sinon, si vous faites cela, regardez ce qui va se passer. Le verset qui suit, et ne donnez pas accès au diable. On vous parle de deux natures. Ce n'est pas des principes moraux. On vous parle de deux natures. Mensonge, vérité. Colère, si se transforme en péché, péché est lié à qui? Satan, le diable. On vous parle de deux personnes. On vous parle de deux vies. Mais c'est nous qui devons décider. On n'a pas dit que Dieu décidera. On n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra vous faire telle chose. Il est déjà en vous. C'est pourquoi, si vous décidez de renoncer au mensonge, il va vous aider. Si vous décidez que vous vous réconciliez avec la personne avant la tombée de la nuit, il va vous aider. Lui, il est là pour vous aider. Il est le consolateur, il est votre aide, il est votre tout, il est votre conseiller. Mais si vous le négligez, vous restez sur votre colère parce que vous avez raison. J'ai raison, je reste en colère. Le diable, la Bible dit, vous donnez accès au diable. Vous donnez accès au diable. Votre raison va donner accès au diable. Comment? Vous le trouvez dans Matthieu 18. Celui qui a refusé de pardonner là. On l'a mis en prison. Et quand on l'a mis en prison, les bourreaux ont commencé à le harceler. Les bourreaux ont commencé. Quel bourreau? Le stress, la haine, ces choses-là. C'est ça? Ce sont les bourreaux. Et votre corps commence à avoir des problèmes. La plupart des maladies des chrétiens viennent du manque de pardon, du refus de se réconcilier. La plupart des chrétiens, des problèmes viennent de là. Et c'est ça qui amène toutes sortes de maladies aujourd'hui chez les chrétiens. Parce qu'ils refusent de laisser passer. Et donc, ils envoient du cholestérol spirituel en eux. Et du mauvais cholestérol. Écoutez la suite. Verset 28. Dépouillement, renouvellement. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est le dépouillement. Mais qu'est-ce que le revêtement? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ah, voilà le revêtement ici. Dépouillement, je ne dérobe plus, je ne vole plus. J'arrête, c'est une décision. Et quand j'arrête la décision, le Saint-Esprit produit le vouloir et le faire en moi. Lui, il est mon partenaire principal. Mais il n'est pas là pour me violer. Il n'est pas là, je ne suis pas un robot. Non, il attend d'abord que je dise, j'arrête de voler. Et il me donne la capacité de résister au vol. Je renonce au vol et qu'est-ce que je fais? Je me revêts de la nature de Dieu en travaillant. Et quand je commence à travailler pour pourvoir à mes besoins, je vois que la tension de vol baisse en moi, je deviens un honnête citoyen. Voilà le processus, le premier élément du processus avec le miroir. Le miroir me dit, ne vole pas, j'arrête de voler. Mais j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas de travail. Il dit, mais cherche un petit travail seulement. Commence à travailler, obéis, et le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à t'aider. Et si vous lisez la suite, tout est là devant nous. Il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est le dépouillement. Que votre bouche ne soit plus une mitraillette pour fusiller les gens. C'est l'arme la plus meurtrière qu'on ait jamais vue dans l'homme, c'est la langue. Que votre bouche là, maîtrisez-la. Votre bouche est votre directeur commercial. C'est celui qui, c'est votre bouche, votre langue qui vend votre vie à Dieu ou à Satan. Votre langue est le promoteur, est le directeur de promotion, le directeur marketing de votre vie. C'est lui qui fait votre promotion, votre marketing, soit chez Satan ou chez Dieu. Si vous ne la maîtrisez pas, elle va vous détruire. On va le voir tout à l'heure là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, ça c'est le revêtement. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça c'est le revêtement. J'arrête de dire les mauvaises paroles qui sortaient de ma bouche. Bien-aimés frères et sœurs. Et sinon, le verset 30 va devenir quelque chose. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, vous voyez les deux choses. Lorsque vous refusez le dépouillement, vous donnez accès au diable. Si vous refusez de vous revêtir, vous attristez le Saint-Esprit. Alors, un chrétien qui a attristé le Saint-Esprit, qui a donné accès au diable, comment voulez-vous qu'il soit heureux? Dites-moi maintenant. Comment voulez-vous qu'il soit heureux? Il attriste le Saint-Esprit. Il refuse de se revêtir. Il dit non, non, il faut que je m'apaise avant de pardonner. Ah non, non, ça ne passera pas comme ça. Trop, c'est trop. Il faut que je m'apaise. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Dieu dit pauvre. Ça ne se passera pas. Tu vas donner accès au diable et tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Ta situation est pire qu'avant. Les deux, vous voyez les deux? C'est dans le même passage. Ce n'est pas ailleurs. Le processus de la transformation est un processus où nous devons nous y impliquer. Nous devons nous impliquer. Le Saint-Esprit est venu en nous, non pas pour nous forcer, mais pour nous aider. C'est pourquoi c'est une aide, c'est un consolateur, et c'est un conseiller, c'est un avocat. Mais un avocat ne viendra pas se mêler de votre problème, vous lui apportez votre dossier et vous dites, maître, maintenant, je vous demande de venir sur mon cas. Le Saint-Esprit, comme ça, il ne se mêlera pas de votre vie, il est là. Il ne se mêlera pas tant que vous ne lui donnerez pas l'accès. Tout ce qu'on on argumente que j'ai raison, ça ne marche pas, frère. Ou ça donne accès au diable, ou ça attriste le Saint-Esprit. C'est l'un ou l'autre. Ou les deux à la fois. Lisez toute la suite, là. Lisez toute la suite. Et le chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Devenez donc les... Vous voyez, devenez donc. C'est une conclusion. Quand vous avez participé au dépouillement, au renouvellement et au revêtement, il dit, devenez donc. C'est une conclusion. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Imitez Dieu. Parce que maintenant, le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes participants de la nature divine. Vous pouvez imiter Dieu. Quand Dieu a commencé à m'apprendre ces choses-là, ce n'est pas des pratiques, hein. ce n'est jamais une théorie. J'avais l'habitude de donner à des pasteurs, en ce temps, j'étais même pas pasteur, j'étais directeur d'entreprise. J'avais l'habitude d'aider les jeunes pasteurs. J'achetais, soit je leur donnais de l'argent pour acheter des moyens de locomotion, ou je leur donnais parfois des vestes, les vestes que j'avais pour les aider, pour qu'ils soient bien propres et tout. Mais chaque fois que je faisais cela, les gens venaient de la ville me dire « Ah, mais tu as donné ta veste à tel pasteur, il ne fait que te critiquer, tout le temps il parle mal de toi. » Et puis, j'étais en colère. J'ai dit à Dieu, j'irai prendre ma veste. Parce qu'un pasteur ingrat comme ça, il n'a pas de veste. Et moi, je lui donne une veste. Au lieu de venir me féliciter, il passe son temps à me critiquer, à me diffamer. Je prends ma voiture et il m'en va prendre ma veste. J'étais en colère, en courroux. Quand je voulais foncer, le Saint-Esprit dit halt. Ah, je savais qu'il va me dire quelque chose qui va me déplaire. Et quand il vous dit comme ça, vous savez que ça va vous déplaire. Vous le savez très bien. Et vous faites semblant que vous n'avez pas entendu. Très souvent, vous faites semblant que vous n'avez pas entendu. Vous l'avez bien entendu. Il m'a dit halt. Assois-toi. Je me suis assis. Il me dit, ouvre la Bible. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est terrible, il veut me parler. Il dit, mais vous aimez que je vous parle quand tout va bien. Quand rien ne va, vous ne voulez pas. Il dit, va dans Romains 13, Romains 12. J'ouvre Romains 12, j'étais assis là, et il dit, lis. Je dis, mais lire quoi? Il dit, lis seulement ce que je vais te dire, ne t'inquiète pas. Et au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Je voulais continuer, il dit, mais ne continue pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, ne continue pas. Vous êtes comme ça, vous voulez continuer. Ne continue pas. Que ton amour ou ta charité soit sans hypocrisie. Alors, ce que tu es en train de faire là, quand tu as donné ta veste là, c'était de l'amour ou pas de l'amour? Il dit, mais c'est de l'amour. Alors, en partant à retirer ta veste, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. Ah, il dit, Seigneur, mais tu as raison. Hein? Alors, qu'est-ce que je dois faire alors? Il dit, non. Pardonne la personne, j'ai commencé, c'est difficile. J'ai raison. Et Dieu me dit, pardonne. J'ai commencé à apprendre cela. C'était pas facile, hein? Quand j'ai pardonné, il me dit maintenant, lis la suite. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Quand j'ai lu tout cela, ma vie a été brisée. J'étais à genoux maintenant en train de verser des larmes. Il dit, mais je suis un hypocrite. Dieu me dit oui. Dieu n'a pas peur de moi. Il me dit oui, tu es hypocrite. Je me suis répandu fortement. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais va lire Matthieu 5. J'ai lu Matthieu 5. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit de faire là-bas? De prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est ça l'amour. Prie pour lui. Prie pour ce pasteur-là. Mais son nom ne sortait pas facilement de ma bouche. Hein. Mais Dieu dit, ouvre ta bouche et parle. Quand tu parles en langue, c'est moi qui parle en langue? Il dit non. Je tire ta langue, il dit non, alors parle maintenant. Parle et pardonne. Dis-lui que tu lui pardonnes pour ce qu'il a dit sur toi. Et quand tu vas le voir, tu ne vas pas lui dire ce qu'il a fait. J'ai dit, Seigneur, je pardonne. Je n'ai pas dit ça avec enthousiasme. Hein. Il dit, je pardonne. Et quand j'ai dit cela, une paix qui surpasse toute intelligence a envahi mon cœur. J'ai dit, mais si c'est comme ça, demain je vais demander pardon encore. Seigneur, si c'est si bon que ça, je vais demander pardon tous les jours. Mais je ne savais pas que le pardon amenait une paix. J'étais sûr que Dieu voulait me conduire dans un chemin difficile. Pardonner, il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Il dit, regarde, la paix qui surpasse toute intelligence a envahi mon cœur. Et c'est ainsi, frère, que j'ai commencé à apprendre ces choses, ce que je vous enseigne maintenant. J'ai commencé à apprendre cela, le renoncement, renoncer à ces choses-là. Et ce n'était pas facile. Et Dieu a fait défiler beaucoup de situations difficiles comme cela dans ma vie pour me dépouiller totalement. Mais ça m'a pas fait du mal. Ça m'a bien taillé. Ma personnalité a été taillée. Un point, c'est tout. Vous voulez du diamant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voulez du bon diamant? Qu'est-ce qu'on fait avec le diamant? On le taille. Pour qu'un diamant ait de la valeur, il faut le tailler. Vous êtes des diamants de Dieu, il faut qu'on vous taille. Et Dieu permettra, il permettra des gens, vous ne pouvez pas échapper à cela, ça c'est un processus de Dieu. Il permettra des gens de vous, des injustices, il permettra que des gens vous diffament inutilement, il permettra, et puis il va vous regarder. Tu dis que tu veux être la transformation, alors voici le moyen que je te donne. La transformation n'est pas un truc de robot où Dieu vient et il vous taille sans douleur, non. La transformation est un processus de douleur qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Mais c'est une douleur qui est accompagnée d'une paix, d'une joie de Dieu. Ça ne blesse pas les gens, frères et sœurs. Ça ne blesse pas. Ça ne blesse pas. C'est une douleur par rapport simplement à votre amour propre, par rapport à votre orgueil. Ce n'est pas une douleur qui vous détruit. Parce que ça vous fait quitter votre strapontin pour descendre simplement au pied du Seigneur. Et comme chacun de nous a un trône, on ne veut pas descendre, alors c'est ça qui nous fait mal. La transformation est par là, frère. Mais aujourd'hui, je peux endurer beaucoup de choses, parce que les choses que j'ai apprises il y a 15 ans, 20 ans en arrière, m'ont permis de comprendre comment Dieu opère. Comment Dieu opère. Et c'est pourquoi les églises, toutes les églises du monde, l'église chinoise, l'église d'Inde dans certaines parties du monde, sont devenues des églises puissantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé ces moments de transformation. Et ils connaissent le caractère du Seigneur. On ne peut pas connaître le Seigneur avec des alléluia, alléluia. Non. Nous le chantons dans nos églises, c'est fort. Mais on connaît le Seigneur dans des temps de tribulation, dans des temps difficiles. Notre caractère est en train d'être transformé par notre âme. N'aime pas les choses douloureuses. Et Dieu travaille. Et c'est pourquoi il met l'homme et la femme ensemble et les deux commencent à se frotter. Le premier endroit où Dieu nous travaille, Dieu nous transforme, dans le foyer. Dieu n'envoie pas un combat. Le foyer n'est pas un ring. Non, ce n'est pas un endroit où on fait la guerre des assiettes. Non, c'est un endroit où Dieu nous façonne. La femme que vous avez, Dieu n'a pas eu un autre choix pour vous que cette femme-là. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Hé, homme, répétez ça. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dis à ta femme, tu es mon bonheur. Dis-lui, tu es mon bonheur. Hé, vous êtes marié? Où est votre femme? Ah, ok, tu apprendras ça. Mais le bonheur, ce n'est pas la loterie. Cette femme-là est votre bonheur. Vous ne pouvez pas avoir une autre femme plus que celle-là. C'est la meilleure femme que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi elle vous résiste. Quand vous voulez faire le yo, elle vous résiste. Et ça vous énerve. Mais c'est ça que ma femme faisait. Hein. Au début, quand je me fâchais, je partais. Quand je sortais pour aller prendre la voiture, elle dit au Seigneur, tu bloques la voiture. Il va revenir d'ici. Quand je m'en vais, je vais démarrer pour partir. Quand je démarre, crac, 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 crac. Et puis elle rit à l'intérieur. Après, je reviens comme un homme abattu. Et je m'assois à côté d'elle. Elle dit, alors, tu es revenu? Il dit, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture n'a pas démarré. J'ai dit à Dieu que ta voiture ne démarre pas. Tu m'as offensé, tu veux partir. Viens t'asseoir, dis, demande pardon. Je dis, oui, je demande pardon. Quand je m'en vais, la voiture démarre. Alléluia. C'est ça. Ma femme a été un moyen pour me tailler. Quand j'ai commencé à prêcher, quand je prêche un message, quand je sors, toute l'église dit, oh, formidable pasteur. C'est très bien. Oh, mais pasteur, le message était bon. Hein? Quand j'arrive à la maison, il dit à ma femme, et alors le message, il dit, oh, bon. Oh, il dit, mais c'est terrible cette femme. C'est terrible. Hein? Elle ne m'encourage même pas. Après, elle m'a dit, mais si je passais mon temps à t'encourager, tu ne vas pas t'améliorer. Ouais, frère, c'est comme cela. Et notre âme n'aime pas ça. Notre âme gémit, notre âme crie. Parce qu'on pense qu'on est persécuté, on pense qu'on n'est pas aimé, on pense que non. C'est une manière de Dieu pour nous tailler, pour nous transformer, frères et sœurs. C'est la manière de Dieu comme ça pour nous transformer. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Demandez à papa Jean. Il n'a pas échappé à cela.
Quand je m'en vais chez eux, et lui et maman Suzanne, quand ils causent, je les écoute. Parfois, quand il veut parler, quand il dit, papa Jean, c'est pas comme ça. Il dit, oui, c'est vrai, c'est pas comme ça. J'ai dit, mais ça, c'est bien ça, ça, c'est une bonne femme. Mais c'est ça, frère. Dieu nous a donné la femme qu'il nous faut pour nous tailler. Et ça, c'est important. Très important. Alors, deuxième chose, après ce que nous venons de voir ici, deuxième chose rapidement, renouveler nos pensées. Si nous voulons être transformés, nous devons apprendre à renouveler nos pensées. Éphésiens 2, pourquoi? Parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Éphésiens 2, nous sommes nés avec des pensées et anachroniques. Nous avons grandi avec des pensées qui s'opposent à celles de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 3, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Il est écrit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Vous voyez bien? Ceux qui ne sont pas convertis sont appelés par Dieu des enfants de colère. Même s'ils sont des ingénieurs, Dieu les appelle enfants de colère parce qu'ils vivent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. On peut le lire un peu plus loin dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 17. Regardons toujours ce qu'il dit. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, ce ne sont pas les villageois qui adorent les idoles. Dans la Bible, il y a deux sortes. Il y a les juifs et tout le reste, on appelle païens. Qui ne font pas partie de la race d'Israël. C'est ça les païens. Et qui vivent selon leurs pensées et non pas selon la parole de Dieu. Car c'est eux seulement qui avaient la parole de Dieu. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et ils ont l'intelligence obscurcie, vous voyez bien. Ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. C'est pourquoi quand vous parlez de Jésus-Christ à ce grand professeur de psychologie-là, il vous dit, mais vous êtes insensé, vous. Christ, Jésus n'existe pas. Il a l'intelligence obscurcie. Il est intelligent en psychologie, il est intelligent en mathématiques, il est intelligent en biochimie, mais concernant les choses spirituelles, il est aveugle. C'est de ça qu'on parle ici. Christ n'a jamais existé. Ce sont des histoires. Vous voyez là? Ils sont étrangers. Dès le moment où ils ont des vaines pensées, ils sont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc vous voyez, la vie de Dieu n'arrive pas à pénétrer parce que leur âme empêche la vie de Dieu de passer. Leur âme, par l'intelligence est dans l'âme. Les pensées, c'est l'âme. Et l'âme elle devient obscure, l'âme devient un obstacle à la manifestation de la vie de Dieu. Et c'est pourquoi on est chrétien pendant 15 ans, 20 ans, on n'arrive pas à progresser, on ne comprend pas pourquoi le pasteur veut que nous jeûnons. Pourquoi il veut qu'on jeûne? Quand on jeûne en Afrique, parce qu'ils n'ont pas à manger, c'est bon, mais ici on a à manger, pourquoi le pasteur veut qu'on jeûne? Pourquoi il veut? Mais ce pasteur, il est en train de nous harceler là. On ne doit pas jeûner. Parce qu'il est dans l'église, il ne comprend pas les jeûnes. Il dit, mais ça, c'est pas possible. Hein. Il dit à sa femme, ah non, ça, je refuse. Parce qu'il a l'intelligence, il est né de nouveau, mais il a l'intelligence obscurcie encore. Il n'est pas renouvelé. Et quand on enseigne quelque chose dans l'église, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Parce que son raisonnement est toujours le raisonnement de ce siècle-là. Son raisonnement est toujours lié au raisonnement du système du monde. Toutes ses valeurs, tous ces indicateurs sont des indicateurs du monde. Et il les prend pour valoriser l'Église. Il évalue l'Église avec les indicateurs du monde, avec les valeurs de ce monde-là. Et beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils savent pas. Ils jugent quand on prêche, ils jugent rapidement. Frère. Et la Bible dit ici, dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 5, 2 Corinthiens 10, que nous connaissons bien ces passages-là, 2 Corinthiens 10, 5, il est écrit,
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est important. Quand on parle de ça, les chrétiens parlent, ils pensent des autres. Non, on parle de toi-même. On parle de toi. Il y a des raisonnements qui ont été édifiés dans ton âme. Tu ne les as pas renversés. Tu dois d'abord les renverser pour permettre aux flots divins qui sont dans ton esprit de couler abondamment en toi. Ne cherche pas à les renverser les murailles des autres alors que tes murailles sont debout. Nous renversons. On parle des chrétiens ici, on ne parle pas des païens. Nous renversons. Et nous amenons toute pensée captive. J'amène ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prends ma pensée, je la soumets à celle de Christ d'abord. Je ne peux pas prendre les pensées de mon frère pour les amener captives à l'obéissance de Christ. Mais j'ai la capacité par moi-même d'amener, c'est moi qui décide d'amener mes pensées qui s'opposent à Dieu là, est captive à la pensée de Dieu. Et ensuite, 1 Corinthiens 2, il est dit là-bas, verset 15-16, que nous avons les pensées de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, regardons Philippiens 4 rapidement. J'ai dit 1 Corinthiens 2, verset 15-16, on ne va pas le lire, on saute à Philippiens. Alors, la pensée de Christ, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que la pensée de Christ? Si nous disons que nous avons la pensée de Christ, qu'est-ce que la pensée de Christ? Philippiens 4, verset 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos... Voilà la pensée de Christ. Alors, on ne parle pas de païens ici, on parle de chrétiens. Vous voyez, la pensée de Christ, elle est bien claire ici. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. C'est-à-dire, soit l'objet de mon âme, parce que mes pensées sont dans mon âme. Pourquoi? La suite du verset 10, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Le Dieu de paix sera avec qui? Avec celui qui a les pensées de Christ, qui amène ses pensées captives à l'obéissance de la pensée de Christ. C'est cet homme ou cette femme-là, alors le Dieu de paix est avec lui. On dit qu'on ne connaît pas la pensée de Christ. Je vous ai dit la pensée de Christ, la voilà claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui est vrai, est-ce que ce que tu penses chaque jour est vrai? Ce que tu penses est pur? Ce que tu penses affecte ta vie, obligatoirement. Si tu penses à l'impureté, tu vas commettre des actes impurs. L'adultère, c'est pourquoi Jésus dit, l'adultère, ce n'est pas l'acte physique. L'adultère physique vient de l'adultère d'abord moral dans notre pensée. Un homme ne se lève pas comme ça et puis il va commettre adultère. Je m'en vais commettre adultère. Vous avez déjà vu ça? Non! Avant d'aller commettre adultère, il s'est assis. Il a réfléchi. Il a pensé. Il a refusé de repousser la pensée d'adultère. Il a mûri la pensée d'adultère. Et les pensées ont agi maintenant sur son corps, ses cinq sens. Il a commencé à sentir quelque chose en lui. Et ces cinq sens et le corps en adéquation ont amené cet homme à commettre adultère. Un homme, ce n'est pas pour aller tuer quelqu'un comme ça. C'est dans son âme, il y a la haine. La haine qui était dans son âme là, il a refusé de repousser cette pensée de haine. Et cette pensée de haine s'est transformée en acte de haine. On ne poignarde pas, on ne tue pas quelqu'un comme ça. On ne vole pas parce qu'on veut voler. On a mûri la chose dans nos pensées. C'est pourquoi Dieu dit ici, si ta pensée n'est pas pure, elle n'est pas vraie, elle n'est pas digne de loi, elle n'est pas vertueuse, elle va produire dans ton corps qui est amoral là, va faire ce que ton âme veut. Ton corps peut tuer quelqu'un. Le corps ne tue pas. C'est l'âme qui a déjà tué la personne. Et le corps ne fait que se soumettre à l'âme pour prendre le revolver et tirer. Si mon âme n'a pas décidé, si mes pensées n'ont pas été remplies de meurtre, je ne peux pas tuer quelqu'un. Impossible. La plupart des gens qui se sont pendus, qu'on a trouvé qui voulaient maintenant arrêter, enlever la corde. Pourquoi ? La pendaison a commencé dans leur fauteuil, dans leur lit. Quand ils étaient couchés, ils ont commencé à dire, j'aurais honte. J'ai fait faillite, j'aurais honte. Et les gens vont rire de moi. La pensée a commencé à dire, mais tue-toi, suicide-toi. Par quel moyen ? Par pendaison. Ils ont gardé cette pensée-là. Ils ont gardé. Et à un moment donné, la pendaison est devenue normale. Elle était devenue même la solution définitive. Et mais quand ils sont allés se pendre, au moment où ils allaient mourir, ils ont vu brusquement, ce n'est pas une bonne chose. Ils ont voulu enlever la corde, c'est trop. C'est pourquoi la plupart des pendus, on voit là. C'est dans votre pensée. Et la pensée dans votre âme. La plupart des jeunes gens qui commettent impurité, c'est où ? C'est dans la pensée. Vous ne pouvez pas dormir dans votre lit, jeune homme, en pensant, en regardant les choses impures et ne pas faire des choses impures. C'est la pensée. C'est cela que la Bible dit ici. Alors, c'est le deuxième moyen. Si nous ne maîtrisons pas nos pensées, nous ne pouvons pas être transformés. La parole de Dieu, premier moyen. Deuxièmement, renouvellement de nos pensées. Et avoir les pensées de Christ. Troisièmement, parler la parole et non vos problèmes. Maintenant, c'est votre bouche. Apprenez à parler la parole et non vos problèmes. Dès que vous voyez quelqu'un, j'ai des problèmes. Et les solutions. Pasteur, j'ai des problèmes. Parlez la parole et non pas vos problèmes. Deux personnages dans la Bible. Josué, Dieu lui a dit, si tu veux réussir, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1, verset 8. Mais un deuxième personnage, qui est un grand, mais qui a échoué, Job, avant d'être repris par Dieu, Job, lui, c'est sa bouche qu'il a perdue. Lis dans Job 3, tu le trouveras. Les gens, tout le monde vante Job. Mais Job était le plus grand ignorant chronique qu'on ait vu. Dieu lui a fait grâce. Il était honnête, mais il était dans l'ignorance totale. Job 3, apprenons ces choses-là. Parfois, les gens croient, ah, mais nous voulons être des Job. Tu veux être des Job? Ok. C'est une bonne chose. Courage alors. Job 3. Voici cet homme que Dieu présente à Satan. Dieu dit, cet homme-là est un homme formidable. Regardez-le maintenant. Dieu va nous révéler sa vraie personnalité, son âme. Dans ce passage de Job, quand il a eu ses problèmes, que ses enfants sont morts, tout est mort, et qu'il a, lui-même il était malade, il dit, après cela, Job ouvrit la bouche, vous voyez bien la bouche, et maudit le jour de sa naissance. Ce n'est pas fini. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal a été conçu. Il a maudit son père et sa mère pour être allés ensemble et l'avoir conçu. Il a maudit tout le monde. Et vous dites, c'est un homme de valeur. Ce n'est pas fini. Ce qui est arrivé à Job, il va vous le dire. Sa propre bouche va vous le dire. Car la Bible dit que la mort et la vie sont là. Dans votre, ce petit mafio là, le feu est là-bas. Vous pouvez brûler votre propre vie avec votre langue. Et Job nous le montre ici, dans verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que, toujours dans Job 3, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Pendant des années, Job faisait des sacrifices quand ses enfants partaient faire des choses, parce qu'il avait la peur en lui, il avait des pensées négatives, que ça n'ira pas. C'est les pensées négatives que vous gardez et les paroles que vous prononcez vont obligatoirement produire leurs effets. C'est pourquoi Proverbe 18, verset 21 dit, il dit ta langue là, si elle te détruit, et tu vas manger le fruit de ta propre langue. Tu vas manger le fruit de ta propre langue. On ne s'en sortira pas. On va tous mourir ici. Si tu veux, tu meurs. Moi, je ne meurs pas. Non! Il faut arrêter des gens qui viennent vous négativer en tout le temps. Les gens qui sont là tout le temps, des paroles négatives. Rien. Ils viennent changer votre atmosphère là. Des paroles négatives. Tout le temps des paroles négatives. Ça n'ira pas. On s'en sortira pas. Mais oui, tout va craquer ici. Tout va craquer. Mais vous allez voir, tout va craquer. Je ne verrai rien. Je refuse ça. Et les gens disent, non, mais on doit parler comme, on ne doit pas parler comme ça. Un chrétien ne parle pas comme ça. S'il vous plaît, un chrétien ne parle pas comme cela. Lisez le livre de Jacques. Jacques 1, 26. Jacques 3, 5. Lisez Proverbe 18, 0, 7. Hein? Lisez Proverbe 18, verset 7. Ne me dites pas que Dieu a dit ça, mais vous faites le contraire. Si vous faites le contraire, vous récoltez ce que vous semez. La parole est une semence. 18, 7. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Pourquoi Dieu a fait mettre les lamentations de Jérémie hors du livre de Jérémie? Pourquoi? Parce que Jérémie était un grand prophète. Mais quand il a eu tellement de troubles, il a eu trop de problèmes, de persécutions, il a commencé à négativer. Il a commencé à être négatif. Il a dit, Dieu a cassé mes dents avec des cailloux. Vous avez déjà vu Dieu casser les dents de quelqu'un? Un grand prophète comme ça qui est en train de hein? Regardez bien dans le livre de Jérémie. Il dit, il a fait une tour autour de moi. Il m'a emprisonné. Et il a commencé à accuser Dieu. Et Dieu dit, Jérémie, tu vas m'écrire un livre que tu vas appeler Lamentation. Et tu vas le sortir de ton livre. Tu vas le mettre de côté. Pour que le monde sache que tu étais un prophète négatif. Mais arrivé au verset 19, qu'est-ce que Jérémie fait? Lamentation. Qu'est-ce que Jérémie fait? Brusquement, il se reprend. Jérémie se reprend. Jérémie voit que ce n'est pas. Le chemin qu'il a pris n'est pas un bon chemin. Et qu'est-ce que Jérémie fait? Jérémie commence à revenir en arrière et commence à changer son langage. Jérémie 3, Lamentation 3, verset 19. Et qu'est-ce qu'il dit, frère? Patientons quelques instants. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, vous entendez? Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais après, Jérémie s'arrête. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Vous entendez maintenant? Mon âme est abattue. Mais il dit maintenant, pour remonter, je vais passer de mon âme en haut dans mon cœur. Je vais abandonner mon âme. Mon âme ne me fait pas du bien. Je vais arrêter de me plaindre dans mon âme et je vais lever le débat. Le débat, je vais l'amener au niveau du cœur. Et à ce moment-là, quand je vais pas dans mon cœur, c'est qui me donnera de l'espérance. C'est mon cœur qui me donne l'espérance. Que dans le cœur qu'il y a la foi, il y a l'amour et il y a l'espérance. C'est pas dans l'âme. L'âme est abattue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ces versets-là, quand j'ai traversé des moments difficiles, il y a 25 ans en arrière, j'ai mis ces versets sur mon miroir où je me peigne. J'ai mis ces versets au chevet de mon lit. J'ai mis ces versets dans ma voiture. J'ai traversé des tentes les plus atroces de ma vie. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Rien ne marchait. La prière ne marchait pas. Ma femme dit, mais qu'est-ce que tu as? Non, tu ne comprends plus. Regarde, tu marches. Je dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais j'ai pris ces versets, je les ai collés. Quand je m'en vais dans la douche, je me lave, je regarde ces versets, je les proclame. Chaque matin, pendant un mois, deux mois, trois mois, c'était une lutte. Il y a des moments où vous passez par ces vallées-là, où tous les éléments de l'enfer vous assaillent dans vos pensées. Et si vous n'avez pas cette parole, vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous relever. Et quand j'ai continué à affirmer mon cœur. Et un jour, la lumière de Dieu s'est manifestée encore. Et je suis sorti de ce trou-là. Frères et sœurs, donc parlez. Parlez à votre âme. Parlez à votre âme. Vous le voyez, vous le notez. Psaume 42, verset 6. Parlez à votre âme. Parlez. Vous, parlez. Les David ont parlé à leur âme. Le psaume 42, 6. Ils ont parlé à leur âme. Psaume 57, verset 9. Psaume 62, ils ont parlé à leur âme. Psaume 103, verset 1 à 5. Psaume 130, verset 5 à 6. C'est rapide, hein? Psaume 42. Non, je ne vais pas les lire parce qu'on est déjà en retard. Psaume 42, verset 6. Psaume 57, verset 9. Psaume 62. Ensuite, le psaume 103, verset 1 à 5. Le psaume 130, verset 5 à 6. Lisez tous ces passages-là et lisez ensuite dans Luc 18, versets 18 à 20, vous allez trouver où les gens se sont arrêtés, ont parlé à leur âme. Il dit, mon âme, pourquoi gémis-tu? Pourquoi gémis-tu? Mais tu ne vois pas les bontés de Dieu? Mon âme, pourquoi es-tu abattu? Loue le Seigneur, bénis le Seigneur. L'âme aime s'apitoyer sur elle-même. L'âme aime qu'on vienne lui dire, pauvre de toi. Oh, tu souffres beaucoup. L'âme aime ça. Pourquoi gémis-tu? David dit, pourquoi mon âme te gémit? Quelle est la raison? Dis-moi. Tes péchés sont pardonnés. Dieu te bénit. Tu as la nourriture en abondance. Il a délivré ta vie de la force. Mais pourquoi gémis-tu? Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Quand je me lève le matin, mon âme est abattue. C'est comme cela, parfois même sans cause, ton âme est abattue, sans raison. Tu te lèves le matin, tu es abattu. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, tu n'as pas mangé hier la bouillabaisse marseillaise. De temps en temps, il faut piquer quelques personnes. Je me lève le matin, je suis abattu. Ça vous est jamais arrivé? Hein? Ah bon? Sinon, j'allais dire, vous êtes des champions. Hein? Ça vous arrive sans cause, rien. Je me lève, je n'ai pas envie de chanter, je n'ai envie de rien. Pourtant, j'ai bien dormi hier nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu, il m'attaque dans l'invisible. Je me lève le matin et je dis à mon corps, je commence à lui ordonner. Il dit, courbature, tu m'entends? Redressez-vous. Et pour ne pas m'apitoyer, je me lève, je me tiens là, dans ma chambre. Et je commence à parler à mon corps, je commence à parler à mes genoux. Vous ne pouvez pas craqueler. Je refuse que la colonne vertébrale, je refuse que les vertèbres lombaires fassent mal. Je refuse que le sciatique se réveille. Je refuse, je vous ordonne, c'est moi qui vous commande. Je vous ordonne de vous restaurer. Et je dis à mon âme maintenant, loue le Seigneur, allez, commence. Commence à louer Dieu. Sans guitare, sans rien, je commence. Je commence, il dit bon. Il dit Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Il dit mais allez, monte. Allez, monte un peu. Après, je dis Alléluia. Oh. Et puis à un moment donné, quand je répète ça 5, 6 fois, 7 fois, mon âme commence à dire ah, mais c'est vrai. Tu es sauvé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à sauter. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Et tout s'évapore. Tout part. Toute la torpeur qui était venue sur moi, la langueur, tout disparaît. Voici mes petits secrets que je vous donne dans ma chambre pour louer. On va s'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini, mais on va s'arrêter là, que Dieu vous bénisse.